le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, merci d'être des nôtres au sommaire de ce magazine. D'abord, l'enseignement. Plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans ne vont pas à l'école. À 3 semaines de la rentrée scolaire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et l'UNICEF ont lancé une campagne nationale d'inscription gratuite pour augmenter le nombre d'inscriptions des enfants en âge scolaire. Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, fait l'objet de critiques dans l'opinion ces derniers temps. On lui reproche d'avoir des positions assez ambiguës dans la résolution de la crise dans l'est du pays. Mary Robinson s'en défend dans cette émission. Elle est notre invitée. Dans l'est de la RDC, les humanitaires sont mobilisés pour alléger les souffrances des déplacés congolais contraints de fuir les affres de la guerre, selon Ucha. Son porte-parole souligne les efforts qu'il consente dans la rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Filles et garçons, tous à l'école, c'est le leitmotiv de la campagne d'inscription pour l'année scolaire 2013-2014 lancée mercredi dernier à Kinshasa. Initiateur de cette campagne, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Il vise particulièrement l'inscription de plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans qui, chaque année, n'ont pas accès à l'école pour diverses raisons. Les détails dans ce reportage d'Honoré Missinga Kalala, rendu pour vous par Berilu Chaka.
Le collège technique Don Bosco de Massina Abattoir a servi de cadre le mercredi 7 août dernier à Kinshasa au lancement de la campagne d'inscription des enfants à l'école pour l'année scolaire 2013-2014. Campagne lancée par l'UNICEF en partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le ministre Makair Mwangu de l'EPSP, entouré de tous ses collaborateurs, tant au niveau national que provincial, ainsi que des partenaires du système éducatif dont l'UNICEF et la Banque mondiale, a donné le coup d'envoi de cette manifestation et il explique.
La campagne elle est nationale, donc ce que nous avons commencé, il se va de poursuivre sur toute l'étendue de la République, demander aux parents, aux tuteurs d'amener les enfants à l'école. Nous sommes toujours en train de réfléchir pour voir les opportunités et comment lancer d'une manière conséquente la gratuité à Kinshasa et à Lubumbashi. Et ailleurs, on continue avec le même processus à l'intérieur du pays, comme nous l'avons toujours fait. J'aimerais beaucoup plus m'adresser aux parents qui amènent leurs enfants à l'école et qui soient responsables. On ne va pas jeter l'enfant à l'école. Et à ce moment-là, il faut suivre ce qui se passe, ainsi que les instructions que nous donnons pour assurer une bonne formation à nos enfants. La formation nous préoccupe nous tous. L'État, ceux qui gèrent l'école au quotidien, mais aussi et surtout les parents. C'est les parents qui ont une lourde responsabilité, qui ont reçu des dieux pour la formation de leurs enfants. L'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite. Si vous avez des problèmes pour l'inscription de votre enfant, venez nous voir.
La condition première pour la réussite de la campagne, c'est effectivement le principe de la gratuité, non seulement de l'inscription, mais aussi de l'enseignement fondamental du cycle primaire. La représentante adjointe de l'UNICEF, Sylvie Fouet, y insiste.
Cette campagne, elle est ainsi lancée dans la quatrième année de la politique de gratuité, qui est souvent un obstacle à l'enregistrement et à la scolarisation des enfants. Afin de permettre que chaque enfant jouisse de ce droit à l'éducation, il conviendrait effectivement de mettre en application ces mesures d'accompagnement de la gratuité en offrant aux élèves un apprentissage sécurisé de qualité. Hospitalisé sur ce contexte de la gratuité, la campagne vise, je le répète, l'inscription en première année de ces 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans.
Toutefois, la réussite des enfants à l'école dépend en premier lieu des parents. Comme le ministre de l'EPSP, Sylvie Fouet de l'UNICEF interpelle plus les parents.
Nous soutenons également les activités de communication qui visent à mobiliser les parents pour assurer que ce droit soit maintenu. Aux parents, je demande d'inscrire et de maintenir les enfants à l'école sans discrimination ni rejet, et tous les enfants, les filles et les garçons. Au personnel scolaire, je demande de faciliter la tâche des parents par une gestion efficiente et transparente des ressources de l'école et de protéger les enfants contre les abus et l'exploitation. Babonki Kelasi et l'équipe Elma Motuya. Tokomisa Banabasi Pe Mabiri Na Kelasi. Topesa Bango Makoki Ya Kotanga Pe Kosilisa Bakalesi O Kati Ya Kimia.
Afin d'encourager davantage les parents à remplir leurs responsabilités, la représentante de l'UNICEF a tenu à préciser aux parents, cette fois-là en Lingala, que l'éducation est un droit des plus chers pour les enfants. Il faut inscrire à l'école filles et garçons. Il faut également offrir aux enfants les moyens pour étudier et de terminer leur formation dans la paix.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La brigade d'intervention est opérationnelle depuis le mois de juillet dernier au Nord Kivu. Cependant, les récents affrontements entre l'armée congolaise et le M23 ont occasionné d'importants mouvements de population. Ces personnes sont venues gonfler le nombre de déplacés, notamment au camp de Mugunga, à Goma et ses environs. Combien sont-ils? Quelles sont leurs conditions de vie et quel genre d'assistance humanitaire reçoivent-ils? Yvan Edoumou, porte-parole à Ocha, dresse le tableau humanitaire de ces dernières semaines au Nord Kivu, au Katanga, mais aussi dans la province orientale. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Yvan Edoumou, bonjour.
Bonjour.
La brigade d'intervention a entamé son déploiement au Nord Kivu et la presse parle d'importants mouvements de population après les affrontements entre les FARDC et les M23 en juillet dernier. Alors, quelles sont les informations que vous avez sur ces déplacements et les sorts de ces déplacés?
Merci pour la question qui effectivement fait débat depuis plusieurs semaines ici en RDC. Il est important de bien recadrer les choses en fait. La brigade n'a eu aucun impact sur la capacité des agences humanitaires à travailler. Il y a quelque part un mauvais procès qui est fait à la brigade et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes sur vos ondes, la brigade n'a eu aucun impact négatif sur le travail de l'action humanitaire.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des affrontements entre FARDC et bien sûr les M23, et ces affrontements ont occasionné des mouvements de population.
Oui, effectivement. Alors, oui. Dans cet ordre d'idée, oui. Les combats qui ont eu lieu récemment entre les FADC et les M23 sont les combats qui affectent l'Est du Congo depuis des années et des années. Oui. L'année dernière, on a eu des combats dans le Nord Kivu avec les M23 et les FADC. Vous connaissez aussi bien que moi que ça fait 10 ans qu'il y a des combats, ou même plus, dans cette zone. Donc voilà, ce sont effectivement ces affrontements entre des groupes armés divers qui pillulent le Nord Kivu et l'Est de la RDC qui sont à la cause des déplacements des personnes, qui sont à la cause des souffrances de millions et de millions de Congolais. Ce n'est pas le déploiement de la brigade et effectivement tout le travail que nous faisons en tant qu'agence humanitaire, c'est de pouvoir répondre aux souffrances des populations qui sont engendrées par les forces armées dans l'est du pays.
Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de déplacés qui ont fui les combats entre les FARDC et les M23 récemment en juillet?
Alors, les dernières estimations que nous avons effectuées dans Goma et sa périphérie font état de plus de 3000 personnes qui ont été déplacées par ces récents affrontements.
3000 personnes, c'est quand même beaucoup. Et où sont-ils essentiellement? Dans les camps de Mugunga ou bien c'est aux alentours de Goma?
Bon, je pense qu'il faut, concernant le chiffre, il faut relativiser. L'année dernière, en 2012, lorsque le M23 avait eu ses premiers combats contre les FARDC, nous avions eu, en l'espace de quelques jours, près de 60 000 personnes déplacées. Donc cette année, nous avons 3 000. Ça dépend où vous situez. Pour certains, 3 000, c'est beaucoup. Pour nous, en tant qu'humanitaire, le chiffre n'est pas important, c'est plutôt la souffrance des gens. Que ce soit 3 000, que ce soit 60 000, que ce soit 500 000, toute personne qui est en détresse a besoin d'assistance. Ce qui nous ramène d'ailleurs à un des principes clés de l'action humanitaire, c'est d'apporter secours aux personnes, que ce soit une personne, ou 10 personnes, ou 5 000 personnes.
Justement, Yvan, nous allons y arriver. Que font exactement alors pour l'instant, tous les humanitaires pour venir en aide aux assez nombreux déplacés des guerres?
La première aide qui est apportée, c'est souvenir à leurs besoins premiers, que ce soit des besoins, donc ça peut être des besoins en eau, en nourriture, en soins de santé, en aliments.
Qu'est-ce que vous apportez concrètement?
Mais la nourriture. Qui vient du PAM, on apporte de l'eau, qui vient de certaines agences, des médicaments qui viennent de l'OMS. Donc c'est toute une série de réponses pour pouvoir répondre aux besoins les plus immédiats des personnes. Et cette réponse est faite en fait de façon quasi continue, en nous assurant d'évaluer les besoins au fur et à mesure, de s'assurer que l'aide que nous apportons est adéquate.
C'est bon. Alors, plus au nord de la province du Nord Kivu, plus de 45 000 personnes qui ont fui les affrontements à Def Nalou et FARDC. Et ces gens-là, ils manquent d'eau, vivres et soins médicaux. Quelles sont les interventions humanitaires de ces côtés-là?
Mais les interventions à ce jour se concentrent principalement autour de la santé une fois de plus. C'est de l'appui aux centres de santé qui sont encore fonctionnels. Mmh. C'est des approvisionnements en médicaments, en pansements, en petites chirurgies. C'est de l'approvisionnement en eau et en nourriture. Les besoins des personnes déplacées en tout dans les premières heures sont très primaires, sont très basiques. Elles veulent manger, elles veulent rester en bonne santé, être soignées, elles veulent avoir de l'eau pour leurs besoins.
Et les abris aussi.
Évidemment, les abris, je ne cite pas forcément tout ce qu'on fait, mais effectivement des couvertures qu'on appelle des biens non vivres.
Restons toujours dans ces domaines humanitaires pour parler de 300 ménages congolais qui ont fui Kibat, c'est toujours au nord Kivu, et ils ont traversé la frontière pour le Rwanda, où ils seraient, selon une certaine opinion, gardés dans un camp. Qu'est-ce que font alors les humanitaires, notamment les ACR, pour assurer un retour pacifique de ces ménages?
Effectivement, un peu plus de 600 personnes avaient traversé la frontière fin juillet pour le Rwanda, et c'est personnes, selon les infos, s'étaient trouvées refuge auprès de familles d'accueil.
Et certains parlent qu'ils seraient dans un camp rwandais.
On va y arriver, je pense, oui. Qu'il y a beaucoup de choses et les gens n'ont pas forcément toujours la bonne information. Donc, comme je disais, 600 personnes qui ont traversé la frontière pour trouver refuge auprès de familles d'accueil en Rwanda. Quelques jours après, on a eu à peu près 115 personnes, principalement des femmes et des enfants, qui ont été transportées au camp de transit de Nkamira.
Là, c'est au Rwanda.
Qui est au Rwanda, parce que ce sont des femmes, ce sont des enfants, elles ont des besoins, ils ont des besoins particuliers, surtout vous imaginez des enfants. Donc ceux-ci ont été effectivement transférés dans ce camp. Par contre, il y a eu un groupe d'à peu près 300 personnes qui ont effectivement cherché à retraverser la frontière pour revenir au Congo.
D'eux-mêmes.
D'eux-mêmes, oui, mais de la même manière qu'ils avaient traversé de l'autre côté, là ils veulent revenir d'eux-mêmes. Mmh. Et c'est là où ils ont été empêchés, on peut dire.
Alors, empêchés par qui?
Ben, par les autorités
rwandaises.
Alors, oui. Je pense qu'il y a encore un certain flou autour de cette situation. Des discussions sont en cours pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment faire revenir ces personnes au Congo. Mais je pense qu'avec l'appui des agences onusiennes, ça va se décanter assez rapidement, comme d'habitude.
Mais en ce qui concerne ces 300 ménages, je précise que le problème, c'est leur prise en charge au retour dans le pays. Est-ce que vous avez pris des dispositions, par exemple, au niveau des humanitaires, concadre OCHA?
Mais il faudrait d'abord qu'elle retourne au Congo pour qu'on puisse la prendre en charge.
Je ne peux pas terminer cet entretien sans pour autant parler d'une autre situation humanitaire qui, à mon avis, est aggravante. C'est au Katanga, avec les groupes armés qui écument la région, et notamment les Maïmaï. Et aussi, il y a un problème de santé, c'est le choléra. Est-ce que vous pouvez nous faire un point, la situation humanitaire, et puis nous parler aussi de mesures envisagées par les humanitaires pour venir en aide à ces déplacés, ou même aux malades?
Alors, le Katanga, au cours de ces 18 derniers mois, est devenu une source de préoccupation pour les humanitaires parce qu'en fait, c'est une province qui a enregistré une très forte progression dans le nombre de personnes déplacées. Fin 2011, le Katanga comptait un peu plus de 55 000 personnes déplacées. Aujourd'hui, près de 18 mois plus tard, elle est proche de 400 000. Il y a beaucoup plus d'attention qui a besoin d'être focalisée sur le Katanga pour apporter de l'aide à toutes ces différentes personnes. Évidemment, dans toute cette situation, nous avons le triangle, ce que nous appelons nous humanitaire, le triangle de la mort.
Le triangle de la mort.
Mitrava, Puerto Maneno, où les personnes, la situation sécuritaire est assez délicate. Malheureusement aussi, le Katanga s'illustre aussi, en tout cas cette année, comme étant la province la plus affectée par le choléra. Les actions qui sont menées sont des actions dans le domaine de l'eau. Et comme je disais tantôt, toutes les agences sont actives dans la province pour une fois de plus répondre aux conséquences d'une situation de sécurité qui est assez inquiétante et dramatique.
Yvon Edoumou, je vous remercie.
Merci.
Pour nos nouvelles en bref, nous commençons par parler de la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et autres violences basées sur le genre. Le sujet a été au centre d'un atelier auquel ont pris part des magistrats de Kinshasa. Cet atelier a été organisé par l'Association des femmes magistrats de la RDC, AFEMAC. en partenariat avec le bureau genre de la MONUSCO. À Lubumbashi, dans la province du Katanga, le tribunal pour enfants réhabilité dans le cadre d'un projet de la section KIPS de la MONUSCO. La remise de cet ouvrage a eu lieu mercredi dernier. Les travaux de réhabilitation de ce tribunal ont coûté environ 21 000 dollars américains pour une durée de 3 mois. C'est tout pour nos nouvelles en bref.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je soutiens totalement la résolution 2098 des Nations Unies et tiens à lever tout équivoque. Ces propos sont de Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Ces derniers jours, elle fait l'objet de critiques sur ses positions jugées ambiguë par rapport à la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. L'ancienne présidente de l'Irlande s'en défend. Elle répond aux questions d'Innocent Olinga.
Madame Robinson, bonjour.
Bonjour.
L'ensemble de la presse congolaise parue cette semaine n'est pas tendre avec vous. Elle vous accuse de vouloir réécrire la résolution 2098 à votre façon, en limitant l'action de la brigade internationale et de privilégier les négociations politiques entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23. N'y a-t-il pas une ambiguïté inquiétante de l'ONU en RDC?
D'abord, permettez-moi de remercier Radio Okapi pour cette opportunité d'échanger sur ce sujet très important. Par rapport à votre question, il me paraît important de lever tout équivoque en ce qui concerne ma position. Je soutiens totalement la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans son intégralité. C'est une résolution très claire qui offre une vision et une approche holistique et globale de promotion de la paix et de la stabilité en RDC. À mon avis, elle ne laisse place à aucune ambiguïté. Il ne s'agit pas de favoriser une composante au détriment d'une autre. La résolution mandate aussi bien la brigade d'intervention qu'elle en appelle au lancement d'un processus politique global dans la recherche de la paix en RDC. Ce sont deux piliers qui vont ensemble. L'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire.
Mais madame, une partie de l'opinion publique congolaise estime qu'en faisant des négociations avec les forces négatives pro-rwandaises du M23, l'axe fort de votre stratégie, cela en contradiction avec la résolution 2098 qui recommande les désarmement forcé des forces négatives, y compris les M23, vous contribuez non seulement à protéger ces groupes armés, mais aussi les Rwandais accusés par tout le monde de les soutenir.
Non, pas du tout. Les Nations Unies poursuivent un seul objectif, la paix durable. En tant qu'envoyé spécial du secrétaire général, je n'ai aucun autre agenda personnel que celui d'aider ce pays de la région à retrouver la paix pour que les populations et les pays puissent aller de l'avant. La RDC a trop souffert et pendant trop longtemps. La population et particulièrement les femmes et les enfants sont les premières victimes de ce conflit. Il est temps que les violences cessent. Il est temps que les exactions contre les populations civiles prennent fin. La région a connu près de deux décennies de conflits, avec des conséquences humanitaires tragiques. Cela suffit. Il faut absolument mettre fin au cycle de la violence. Une victime congolaise de plus, c'est une victime de trop. Un déplacé congolais de plus, c'est un déplacé de trop. Et un réfugié congolais de plus, c'est un réfugié de trop. La RDC a besoin de paix et de développement. Je compte travailler avec les autorités et la société civile de ce pays et ceux des pays signataires de l'accord pour parvenir à cet objectif qu'il faut absolument réaliser. Vous savez, je suis originaire d'un pays, de l'Irlande, qui a connu un conflit violent pendant longtemps. C'est fort de cette expérience personnelle que je travaille avec toute mon énergie et en partenariat avec le gouvernement de la RDC, la société civile, ainsi que les autres pays signataires de l'accord cadre et la MONUSCO, à donner une chance à la paix. Cette fois, il faut réussir.
Oui, mais selon la presse congolaise, vous apparaissez opposé à l'ultimatum de la MONUSCO lancé aux détenteurs illégaux d'armes de guerre à Goma et autour de cette ville. N'y a-t-il pas là un point de friction entre votre mission et celle de la MONUSCO, notamment sur la question de la brigade d'intervention? Et pouvez-vous expliquer votre mission et sa spécificité par rapport au mandat de la MONUSCO?
Il y a en effet une perception erronée de ma position que je souhaite clarifier, replacer dans son contexte. Je réitère encore mon adhésion totale à la résolution 2098 et à l'approche globale qu'elle propose, ainsi que mon soutien à la MONUSCO. Je compte travailler étroitement avec le nouveau représentant spécial Martin Kobler pour soutenir les efforts de la MONUSCO. Nous avons une relation très bonne déjà. Nos mandats sont en parfaite symbiose. Nous allons agir de façon complémentaire et synergétique pour soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans la poursuite de la paix. Je ne voudrais m'étendre sur le sujet, mais la brigade d'intervention vient d'arriver. Elle est en train de s'établir et de mettre en place les mesures de manière progressive en collaboration avec les autorités pour aider à faire face à la situation sur le terrain. Elle est déterminée à mettre en œuvre son mandat et elle fait tout pour faire ça, mais cela nécessite naturellement du temps. La brigade fait partie intégrale de l'approche globale que la communauté internationale a mise en œuvre à travers la résolution 2098 pour mettre fin durablement au conflit à l'est de la ADC.
Madame, vous avez encouragé récemment dans votre discours à Nairobi toutes les parties à clôturer les pourparlers de Kampala le plus vite possible. Pour vous, les négociations de Kampala sont-elles la solution de la crise?
Je crois qu'il est important de rappeler que les pourparlers de Kampala précèdent une initiative des chefs d'État. Le sommet de la conférence des Grands Lacs, dans sa déclaration, a entériné une recommandation éminente des ministres de la sous-région, appelant à une conclusion rapide de ces pourparlers. La déclaration a également appelé la communauté internationale à faciliter le processus, notamment à travers un effort conjoint de l'envoyé spécial Feingold des États-Unis, le représentant spécial du secrétaire général Martin Kobler et de moi-même. Je suis personnellement prête à explorer toutes les voies possibles et acceptables pouvant mener à une solution durable de la crise. C'est ça qu'il faut.
Oui, c'est ça qu'il faut. Une dernière question, madame. Comment voyez-vous les retours de la paix dans la région des Grands Lacs? Y a-t-il aujourd'hui une solution durable?
C'est la question essentielle, n'est-ce pas? La situation est complexe. Je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. La paix durable nécessitera une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord et avant tout, elle exigera comme préalable une forte volonté politique soutenue tous les leaders de la région. Et je compte sur ça. Un climat apaisé pour restaurer la confiance entre les États. Une détermination à mettre en œuvre les engagements souscrits dans l'accord cadre. La recherche de solutions aux causes structurelles et profondes du conflit. La cessation des hostilités afin de mettre fin au cycle de la violence. Créer les conditions propices au retour des réfugiés et des déplacés. La justice et l'équité, ainsi que le soutien financier, technique et coordonné de la communauté internationale. En somme, il faut une solution politique globale. Et je crois que c'est pour ça que je parle de la cadre d'espoir. Cette fois, il faut que ça réussi. C'est pour ça que je travaille chaque jour.
C'est pour ça que vous travaillez chaque jour. Madame Robison, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci bien. À la prochaine.
La nouvelle en province de ce dimanche concerne les réfugiés centrafricains du camp Molé à 35 km de Zongo. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Ces réfugiés ont brûlé dimanche passé 15 abris du site. Ils protestaient contre la qualité et la quantité de la nourriture que leur offrent les partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Bon nombre de ces réfugiés centrafricains estiment que la nourriture mise à leur disposition est loin de répondre à leurs habitudes alimentaires. Les détails avec Dominique Wolombi.
Cette grogne de réfugiés centrafricains fait suite à la nourriture que leur servent les partenaires du HCR au camp de Molé. Une nourriture qu'ils jugent non adaptée à leurs habitudes alimentaires, estiment certains réfugiés. D'autres protestent contre la quantité de la ration alimentaire qu'ils considèrent comme insuffisante. Les mécontents demandent que l'on varie les aliments qu'on leur sert, qu'on leur donne des rations en riz et boîtes de conserve, ainsi qu'une somme d'argent de $5 par réfugié chaque jour. Face au refus des gestionnaires du camp Molé de répondre à leurs exigences, un groupe de réfugiés a brûlé 15 abris du camp. 16 parmi ces réfugiés centrafricains ont été identifiés comme mineurs. 3 ont été interpellés par la police. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Dr Léon Kinoani, je suis marié, père de 4 enfants. Ma première fille étudie à Liège, en Belgique. Le deuxième étudie aux États-Unis, à l'Université de Virginie. J'ai étudié à l'Université de Kinshasa et après j'ai fait des études post-universitaires à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, à l'Institut régional de santé publique du Bénin et puis j'ai été dans plusieurs universités également avec porteur d'un certain nombre de certificats et j'ai également publié beaucoup d'études. Je suis en plus de cela épidémiologiste au sein de l'OMS où je m'occupe particulièrement de l'introduction de nouveaux vaccins ARDC. Je suis également chef de travaux d'université, je donne des cours de santé publique et de médecine des catastrophes et de médecine du travail. Je suis aux Nations Unies depuis plusieurs années, j'ai à l'OMS depuis 1996, mais j'ai avant cela travaillé au sein du Haut Commissariat des Nations Unies comme coordonnateur médical pour les réfugiés burundais et des réfugiés rwandais. J'ai travaillé comme administrateur de projet à l'UNICEF Bukavu. J'ai été médecin inspecteur provincial au sud Kivu. J'ai été plusieurs fois médecin chef de zone à Kindu et à Bukavu, à Kasungu. Mes tâches quotidiennes se résument, je dirais, si je devais faire ce que nous appelons en management un chronogramme de Gantt. Bon, quotidiennement, c'est l'arrivée au bureau. Il faut regarder d'abord, checker les emails. C'est par là qu'on commence. Participer à la réunion chaque lundi, la réunion des experts en épidémie en RDC. Donc je suis membre de ces petits groupes créés par le représentant de l'OMS. Et donc nous faisons le tour d'horizon des épidémies qui est à travers le pays pour donner l'appui nécessaire au gouvernement et au ministère de la Santé. Donc les temps libres, j'aime gérer les temps libres à visiter ma mère d'abord. Ma vieille mère est présente dans la ville de Kinshasa. Je passe beaucoup de temps à la visiter, à écouter les petites blagues et puis j'ai fait une autopsie verbale de ce que ma naissance a été. Donc j'essaye de suivre ce qu'elle me dit et je note par exemple que j'ai été victime d'une fracture à l'accouchement et donc j'étais content de le savoir et que j'ai passé un petit moment de boiterie, j'ai boité et puis à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à reprendre la marche normale. Donc la musique, j'aime bien la musique congolaise évidemment, j'aime beaucoup. Mais ce qui me fascine plus, c'est le sport. Or j'adore le combat, la boxe parce que j'ai pratiqué ça à l'université, donc j'aime beaucoup cela. Le repas, c'est surtout les menus congolais que moi j'aime beaucoup. Alors, par rapport au projet d'avenir, si on arrivait en RDC de constituer les mutuelles de santé, je crois que pour moi, ce serait le meilleur héritage auquel je puisse participer pour la santé de la population congolaise. Parce que les mutuelles de santé, peut-être qu'elles ne sont pas bien connues, mais je pense que avoir le contexte congolais d'un pays en voie de développement où l'argent entre en poche à des moments et il disparaît à d'autres moments, je crois que les mutuelles de santé, à mon avis, devait constituer ma propre participation à la santé de la population congolaise et bien sûr maintenir mes enseignements si un jour je quitte les Nations Unies pour la retraite. Je crois que je vais beaucoup plus me confier à transmettre mes petites connaissances à la génération montante. Voilà, merci.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Je m'appelle Rochina, ressortissant du village de Rusambu, au nord Kivu. Le village de Rusambu et celui de Bukibira sont menacés de famine par manque de semences. Que peuvent attendre les populations de ces deux villages de la part de la FAO?
Merci Monsieur Rushina pour votre question. Nous avons contacté Guillaume Kaungoshi. Il est consultant national pour la sécurité alimentaire à la FAO Nord Kivu. Suivez sa réponse.
Merci Monsieur Rushina pour votre question. Les deux villages, Rusambu et Bukumbira dont tu parles, font partie de la zone de santé des Pinga, caractérisée par une insécurité alimentaire avec crise des moyens d'existence aiguë selon les analyses IPC de décembre 2012, donc la phase 3, qui est différente de la phase des famines, qui est la phase 5. Dans ces circonstances, par le mécanisme de réponse d'urgence globale, la FAO coordonne les activités de réponse, se basant sur l'analyse de besoins conduite par tous les membres du cluster sécurité alimentaire provincial à Goma et l'analyse de la réponse suivant la cartographie qui fait quoi où dans les zones en crise. La FAO intervient actuellement dans les territoires de Walikale, mais dans sa partie centrale qui boit sur l'axe Goma-Walikale et ne pourra pas couvrir tous les territoires à cause de moyens limités.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À nos agendas pour noter cette date. Le lundi 12 août, ce sera la Journée internationale de la jeunesse. La célébration de cette journée cette année est centrée sur la question des migrations des jeunes. Selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur un total annuel de 214 millions de migrants internationaux, les jeunes représentent 10% de ce chiffre. À Kinshasa, l'ONG Paix pour l'enfance et la fondation Werrason ont prévu d'organiser une conférence débat ce même jour autour de la problématique des enfants soldats, thème implication de la jeunesse congolaise dans la lutte contre l'exploitation des enfants dans les groupes armés. Lieu de la rencontre, salle de conférence de l'UNICEF UTEX Africa. Anna Paola, en charge de la protection de l'enfant à l'UNICEF, fait partie des intervenants. La fin de ce magazine, moi Mila Kimwini, j'ai eu le plaisir de vous le présenter avec l'assistance technique de Sylvain Matundu. Cette émission a été le fruit de la supervision de Nicole Ngaka, de la coordination de Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga a été au reportage. Vous pouvez retrouver le magazine sur le site internet de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.